Nous allons lire le texte de l'évangile qui nous est proposé ce matin pour cette entrée au carré, dans la période du carême, comme Denis nous l'a si bien fait remarquer, période qui nous sépare de la Pâque. Alors c'est une fête que nous fêtons année après année, qui certes peut-être se résume à des œufs en chocolat ou un bon repas. Mais est-ce que ce message de Pâques n'a pas encore quelque chose à nous dire ? Et cette période de carême également. Évangile de Matthieu, à partir du chapitre 4, c'est tout juste après le baptême de Jésus. Voici que Jésus s'associe avec son peuple, prend le baptême, lui qui n'en avait pas vraiment besoin, et devient par ce mouvement le porte-péché, quelque part, de son peuple. Un moment extraordinaire pour Jésus. Voici que le ciel s'ouvre, son Père, qui lui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. » Et puis voici que la colombe vient à son épaule. Moment fort pour son ministère. Mais voici que s'ouvre un autre épisode, Matthieu 4, à partir du verset 1. Alors l'Esprit Saint conduisit Jésus dans le désert pour qu'il y soit tenté par le diable. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. » Mais Jésus répondit « Il est écrit, l'homme n'a pas seulement besoin de pain pour vivre, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. » Alors, le diable le transporta dans la cité sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, lance-toi dans le vide. » Car il est écrit « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte aucune pierre. » Jésus lui dit « Il est aussi écrit « Tu ne forceras pas la main du Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une très haute montagne. Là, il lui montra tous les royaumes du monde et leur magnificence. Puis il lui dit, « Tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. » Alors Jésus lui dit, « Va-t'en, Satan, va-t'en, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Là-dessus, le diable le laissa, et voici que des anges vinrent et se mirent à le servir. Je vous invite à prier. Seigneur, ta parole est la vérité, qu'elle nous sanctifie, qu'elle nous corrige, qu'elle nous instruise, qu'elle nous encourage, qu'elle nous réconforte. Amen. Alors, ces textes que l'on pourrait lire avec différents points de vue, me semble-t-il. On pourrait s'attarder sur la dimension un peu existentielle de la tentation, l'aspect psychologique, les ressorts qu'use le diable pour Jésus, pour le tenter, l'éprouver. Ça, c'est une possibilité. On pourrait aussi s'attarder sur le chemin particulier que Jésus est en train d'accomplir tranquillement. Lui, le vrai Israël, qui est en train de revivre cette période d'épreuve au désert, comme Israël, il y a plein de bien longtemps. On pourrait aussi porter notre attention sur une dimension spirituelle, sur le combat spirituel. On va aller casser du démon, les amis. On pourrait aller à ce moment-là voir qu'est-ce qu'on peut en tirer de ce texte dans cette réalité. Trois angles proposés. À votre avis, quel est celui que j'ai choisi ? L'angle... Alors, ne lisez pas la dernière phrase, hein, parce que c'est la réponse. Est-ce l'ordre existentiel, l'angle christologique ou l'angle combat spirituel ? Oui, c'est une réponse médiane que je vous propose ce matin. Alors ça va être un peu frustrant, parce que du coup on ne va pas tout aborder, forcément. Mais l'idée c'est de jeter un tout petit peu, quelques éléments de base pour mener un peu notre réflexion. Et pour cela, je vous propose de répondre à trois questions, ou d'essayer de répondre à trois questions. La première, c'est d'après ce texte, qu'est-ce qu'on apprend sur la réalité du monde invisible ? La seconde question, importante, c'est quelle différence doit-on faire entre la tentation et l'épreuve ? Et la troisième question, c'est quelle est notre responsabilité, notre place, notre rôle dans ce combat cosmique qui se déroule dans le monde invisible ? Alors, la première question, qu'apprend-on de la réalité du monde invisible dans ce texte ? Alors, il y aurait beaucoup à dire, beaucoup de choses. Je vous conseille, si vous voulez aller plus loin, le livre d'Alain Isus. Je n'ai pas de royalties là-dessus, hein. Mais si vous voulez aller plus loin sur cette dimension du monde invisible, ce livre, « Mais délivre-nous du mal » est excellent pour aller plus loin. Merci Alain pour ton beau travail. Cela étant dit, même si on ne peut pas aller très très loin, on va juste s'attarder un petit peu sur les acteurs en présence ici. La réalité du monde invisible. Alors, il y a, vous savez, deux écueils. Vous le savez bien. Soit de dire que le diable n'existe pas, et le démon, seul ce monde réel existe. Et puis, il y aurait aussi l'autre écueil, c'est de voir le diable partout. Chef, chef, je suis en retard au travail, mais ce n'est pas de ma faute. Le démon du retard m'a chahuté ce matin. Chef, chef, j'ai pas bien fait mon travail, mais tu comprends, c'est le démon du travail feignant, paresseux, qui m'a chahuté au travail. Il y a les deux dimensions, voir le démon partout et ne le voir pas le voir du tout, nier cette réalité du monde spirituel. Et il m'en semble que la Bible nous invite à un chemin de traverse, un petit peu entre les deux, un chemin d'équilibre. Mais voyons les forces en présence. Du côté de la lumière, il y a Dieu. Dieu le Père, qui reste aux commandes, discret. Il est celui qui maîtrise tout. Il est celui qui laisse son Fils aller au désert pour être éprouvé ou tenté. C'est l'Esprit Saint, remarquez, qui conduit Jésus au désert. Ce n'est pas Jésus qui veut aller volontairement. Mais c'est lui qui va laisser aussi le diable prendre un moment l'initiative. C'est lui qui va, le Seigneur va laisser le diable prendre Jésus, le transporter tranquillement dans sa machine à télétransportation d'un lieu à l'autre. Mais si c'est lui qui a l'initiative, si c'est lui qui permet que l'épreuve se déroule, c'est aussi celui qui a le dernier mot à travers l'obéissance de son Fils et de ses anges qui viennent le servir quand lui a obéi. Deuxième personne de la Trinité, Dieu le Fils, est là. Il est celui qui va emporter le combat sur le mal par son obéissance. Il est celui qui a accepté de descendre dans l'arène pour aller combattre. Il est celui qui fait la joie de Dieu son Père. Mais il est celui qui va en prendre plein la figure. Lui qui va subir les assauts de Satan, qui va tenter de le faire glisser tranquillement sur une pente bien glissante, que est celle de la faim, l'orgueil, l'idolâtrie du pouvoir, la puissance, à portée de main. N'est-ce pas ? Mais ça, c'est des tentations qui n'existent plus depuis lors, n'est-ce pas ? Nous avons combattu tout ça. Hein ? Mais lorsque Jésus aura dit le dernier mot, remarquez, « Va-t'en, Satan !» Satan ne rechigne pas, parce que Jésus a l'autorité également. Il y a Dieu le Saint-Esprit qui est là, qui conduit Jésus au désert. Et en réalité, on se rend compte que dans cette épreuve, c'est toute la Trinité qui est harmonieusement en marche pour permettre que la victoire éclate le jour de Pâques. Le royaume de paix, de justice, est en marche. Et cette épreuve du désert est un élément important, crucial pour ce ministère. Alors nous le savons, à Pâques, à travers la mort et la résurrection de Jésus, la victoire a été emportée, une fois pour toutes, sur le mal. Mais il y a un mais, c'est que nous avons des yeux, des oreilles pour entendre, et nous voyons bien que le mal reste encore présent au milieu de nous. Parce qu'en réalité, si oui, la victoire est déjà acquise, il n'en reste pas moins que Satan reste encore actif. Alors il est lié, mais il se démène, nous dit la parole. Romains 16, verset 20. Il se démène. Pierre parlera d'un lion rugissant qui cherche une proie à dévorer. Alors comment comprendre cet entre-deux ? Oui, Pâques, c'est la victoire du Christ définitive sur la mort et sur le mal. Mais force est de constater qu'il y a quand même bien une réalité du mal qui est au milieu de nous. Un théologien a proposé cette illustration pour comprendre les choses. Il explique que nous sommes cet entre-deux comme au moment du débarquement des Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale, qui était la première porte, la première étape d'une victoire, la fin de la barbarie nazie. Mais, même si la victoire était à la porte de notre pays, il a fallu du temps pour que Paris soit libéré, pour que toute la France soit libérée, pour que l'Alsace soit libérée, etc., etc. Il a fallu du temps avant que la victoire soit totale et complète. Et nous sommes un peu dans cette période-là, dans cet entre-deux. Toujours du côté de la lumière, après Dieu, il y a les anges. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont dites sur les anges. Mais ici, ils sont simplement présentés comme des serviteurs de Dieu, prêts à nous protéger. C'est Satan qui le dit. Mais il cite la Bible, donc c'est vrai. Prêts à nous protéger et prêts aussi à servir. Ils vont servir Jésus, le Jésus affamé, faible, après tant d'épreuves. Ça, c'est côté de la lumière. Et pour reprendre une illustration qui est chère à Simon, du côté obscur de la force, nous avons Satan et ses sbires. Personnage bien connu, n'est-ce pas, si nous lisons nos Bibles. Diable, le tentateur, celui qui se plaît à faire du mal aux êtres humains, par la maladie, les catastrophes. Celui qui se plaît aussi à utiliser notre Bible, n'est-ce pas, pour nous accuser devant Dieu, après nous avoir tentés. Regarde, tu ne convoiteras pas. Es-tu sûr que tu n'as pas convoité ta voisine la semaine passée? Voilà ce qu'il fait. Il est cet accusateur devant Dieu. Ces démons sont des créatures nocives. Ils sont des anges déchus. Mais il faut faire attention. Il faut faire attention lorsqu'on parle de Satan. Satan n'est pas un dieu en version méchant. Il n'est ni omniscient, il n'a pas toute connaissance, il n'est pas omnipotent, il n'a pas tout pouvoir et il n'est pas omniprésent. Il n'est pas présent partout. Cela étant dit, il reste quand même puissant. Et il nous tente. Ça, c'est une de ses facettes de son action. Il nous tente. Un peu comme ces singes en Inde au début des années 2000. Il y avait une ville qui avait été frappée, envahie de petits singes. Plein de petits singes. Alors, c'est mignon, un petit singe, mais plein, c'est pénible. Ils étaient nombreux. Ils envahissaient la ville. Commençaient à mordre les gens. Piquer la nourriture. Alors là, il fallait faire quelque chose. Alors, les habitants se sont réunis et ont dit, il faut qu'on trouve une solution, pas pour les... mais pour les déplacer. Alors, ils ont fait comme ils font là-bas, traditionnellement, c'est-à-dire qu'ils ont pris leurs bouteilles de lait en verre. Alors, on n'a plus des bouteilles de verre comme ça, on a des packs de lait, là, en carton. Mais là, c'est des bouteilles de verre en lait. Ils ont mis une petite sucette dedans qu'ils ont attachée sur le sol. Et je vous laisse imaginer la suite. Les petits singes, filous comme tout, ont repiré ces petites sucettes, ont mis leurs mains pour essayer de l'attraper, mais n'arrivant pas et ne voulant pas lâcher, ont laissé leurs mains coincées dans la bouteille. Ils se sont laissés tenter par cette belle sucette. Et c'est cela aussi, la tentation. C'est de se laisser avoir par le diable. Lui qui a le don pour rendre les choses très attrayantes, dénuées d'interdits, même pas contraires à la volonté de Dieu. T'inquiète pas. Ouais, non, ne t'inquiète pas. Il est un peu comme ce que dit Oscar Wilde, le seul moyen de se délivrer de la tentation, c'est d'y céder. N'est-ce pas? Et sans s'en rendre compte, on est comme ces petits singes. La main coincée dans cette bouteille, prisonnier de ce cercle dans lequel le Satan essaie de nous y entraîner. Côté de la lumière, le côté obscur de la force sont en train de lutter. Satan, et nous, on n'est plus au milieu de tout ça. Satan utilise la tentation. Mais le texte nous parle de Jésus qui est conduit au désert pour être mis à l'épreuve. Et il me semble important de s'arrêter juste un instant pour faire une petite distinction lexicale entre la tentation et l'épreuve. Alors, c'est difficile parce que parfois même le texte grec utilise le même mot pour dire « et tentation et épreuve ». Alors, on est un peu coincé. Qui est-ce qui nous tente et qui est-ce qui nous éprouve ? Jacques nous dit que Dieu ne tente pas. Et pourtant, c'est lui qui conduit Jésus au désert pour être mis à l'épreuve. Alors, comment comprendre la distinction entre les deux ? Brièvement, voilà ce que je vous propose comme distinction. La tentation, c'est l'œuvre rusée du diable, qui exerce petite pression ou de grandes pressions, des petites sollicitations ou de grandes sollicitations, des petites séductions ou des grandes séductions pour nous faire glisser. Il utilise notre fragilité intérieure, notre péché, pour nous faire glisser. Il attise nos désirs légitimes au départ, mais il nous aveugle en nous faisant croire que lui connaît bien ce qui est bon pour nous et nous détourne. Il est celui qui nous conduit petit à petit à glisser, à transgresser la loi de Dieu. Et puis paf ! Il nous accuse. Une fois qu'il nous a fait transgresser la loi, il nous accuse. Il nous conduit par la tentation tranquillement à pratiquer le mal, gentiment. Et c'est ce qu'il fait pour Jésus. Parce qu'in fine, ce qu'il demande à Jésus, c'est tout simplement de se prosterner devant lui et de mettre un terme à sa mission, à la mission que le Seigneur lui a donnée. L'épreuve, quant à elle, c'est ce creuset qu'utilise Dieu pour nous mettre à nu, pour révéler notre fidélité, notre loyauté, notre résistance, notre foi, pour mettre à jour nos défaillances, et même parfois pour mettre à jour nos faux raisonnements, même sur lui-même. Mais Seigneur, je croyais que si je faisais ça ou si je faisais ci, alors tu allais me donner ça aussi. Et parfois, l'épreuve vient nous balayer nos raisonnements. L'épreuve, c'est un peu comme cette expression, vous connaissez certainement. C'est dans les coups durs que l'on reconnaît ses vrais amis, n'est-ce pas ? C'est ça l'épreuve. C'est comme pour vérifier, pour éprouver la qualité de l'or, il faut la faire passer au feu pour ensuite être purifié. L'épreuve n'est pas mal en soi. Elle vise à nous faire grandir, à nous faire de plus en plus dépendre de Dieu. Elle est comme un apprentissage qui nous aide à être de plus en plus endurant, plus confiant, parce que les tentations, les épreuves sont de plus en plus difficiles parfois. La mise à l'épreuve, dit Jacques, de votre foi, produit l'endurance. Par amour, le Seigneur nous aide à être endurant, confiant. Vous savez, l'épreuve, c'est un peu comme cette phase d'apprentissage où d'abord on apprend à juste monter une motte de terre. Une fois qu'on a appris à monter cette motte de terre, on est plus à même avec l'expérience de monter sur un petit mont. Et après l'expérience de monter ce petit mont, on peut monter une petite colline. Et ensuite, avec l'expérience de l'épreuve passée, on peut arriver à grimper la montagne. L'épreuve est ce lieu particulier où Dieu se révèle à nous. Il se révèle à nous comme ce Père qui veut nous accompagner et nous apprendre à cheminer dans la maturité. Ça, c'est l'épreuve. Mais la tentation peut être aussi une épreuve lorsqu'elle est permise par Dieu. Et c'est ce qui se passe ici pour Jésus. Dieu permet que Jésus soit tenté. Et ça devient alors une épreuve. Mais il faut faire attention. Toute tentation n'est pas une épreuve et toute épreuve n'est pas une tentation. Ici, c'est particulier à Jésus. Mais la tentation peut être l'occasion pour le Seigneur de nous éprouver, de nous apprendre, de nous faire grandir. On m'avait raconté l'histoire d'un officier de la Wehrmacht, haut responsable, chrétien, responsable de la DCA, anti-aviation. Que faire ? Voilà que les alliés sont débarqués, les avions alliés arrivent sur l'Allemagne. Il y a en dessous de lui ses soldats qui ont de la peine à tenir l'engin tellement ça bombarde de partout. Que doit-il faire, lui qui est chrétien ? il est tentant de simplement obéir et de tirer sur les alliés et de laisser encore perdurer le mal, la barbarie nazie. Mais il peut être aussi tentant de tirer à côté pour laisser les avions passer et mettre un terme à ce mal. Voilà un lieu d'épreuve, mais aussi de tentation. Choisir entre le bien et choisir le mal. Un lieu où notre foi est mise à l'épreuve. Et ce jeune officier de l'époque a lui-même pris les canons et tiré à côté. Voilà qu'il a répondu d'une certaine façon à la fidélité de sa foi. Il est au cœur d'une épreuve pour révéler sa foi. Voilà donc, distinction entre tentation et épreuve. Maintenant qu'on a fermé cette petite parenthèse lexicale, revenons à notre combat cosmique. Parce que ce texte de l'Évangile, et ça c'est la troisième question à laquelle on va se poser, quelle est notre place finalement, quelle est notre responsabilité dans ce combat cosmique intersidéral entre les forces de la lumière et les forces des ténèbres. Et ce texte de l'Évangile nous rend sensibles à la réalité de cette guerre. L'apôtre Paul nous en informe d'ailleurs. Éphésiens 6, les textes que nous connaissons bien. Voici ce que dit Paul. Nous n'avons pas à lutter contre les êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. Jésus est au désert, et comme lui, il peut nous arriver d'avoir un sentiment fort d'être au milieu de ce combat. Mais de façon plus générale, qu'est-ce que l'on doit faire dans ce combat cosmique? Est-ce que nous devons crier « À l'attaque !» comme Astérix et Obélix? Est-ce qu'on doit se mettre en ordre de bataille pour aller casser du démon? Alors, il y a deux écueils encore ici. Quand on entend parfois nos frères et sœurs aller dans cette dimension-là, on a tendance un peu à sourire. Mais n'empêche qu'ils ont beaucoup à nous apprendre sur la vie de prière et sur le témoignage. Deuxième écueil, c'est de vouloir à tout prix combattre de façon agressive les démons. Et il y a des textes de l'Écriture qui nous mettent en garde contre une témérité trop hardie. Jude nous dit ceci. L'archange Michel lui-même, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, se garda bien de proférer contre lui un jugement insultant. Il se contenta de dire « Que le Seigneur te punisse ». La parole de Dieu nous dit « Oui, nous sommes dans une lutte ». Mais si nous observons bien ce texte de l'Évangile, qui est-ce qui prend l'initiative du combat? Qui est-ce qui a pris l'initiative du combat pour Job? Qui est-ce qui a pris l'initiative du combat à l'époque d'Ève et d'Adam? À mon sens, nous sommes plus appelés, je pense, à résister aux assauts, à cultiver notre intimité avec Dieu, notre connaissance de Dieu, qu'à prendre l'initiative du conflit, me semble-t-il. Mais ça, ça se discute. Hein. Qui plus est, me semble-t-il, si nous usons nos forces à attaquer, qu'en sera-t-il lorsqu'il nous faudra nous défendre des assauts du lion rugissant? Alors la question, c'est comment résister? Si nous ne devons pas attaquer, mais simplement défendre, résister, c'est comment? Comment le faire? Alors je vous propose quelques clés assez rapidement. Il n'y a rien de magique dans tout ça, vous allez voir, parce que Jésus n'a pas utilisé la magie. Il a refusé d'utiliser la magie dans le désert. Mais c'est quelques clés, quelques rappels de bon sens, de choses que l'on connaît déjà, mais qu'on a parfois tant de mal à mettre en pratique. La première clé, c'est bien sûr la présence, le privilège d'avoir l'Esprit Saint en nous. Nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Nous avons la présence de l'Esprit Saint. Et à notre conversion, ça c'est l'apôtre Paul qui le dit, Colossiens 1, versets 13 et 14, à notre conversion, lorsque l'on accepte le Christ, lorsque l'on reçoit l'Esprit Saint, on met un terme au contrôle des esprits mauvais sur nos vies. Ça permet une vie non pas sans épreuve ni tentation, mais une vie en présence de Dieu, dans la confiance, dans la foi. 1 Corinthiens 10, verset 13. Ce privilège immense de vivre ce combat avec Dieu qui est en nous. La deuxième clé, c'est les armes d'Éphésiens 6 que nous connaissons bien. Le casque du salut, la ceinture de la vérité, etc. Je vous invite à relire ces armes. Éphésiens 6, versets 10 à 17. Juste une remarque, remarquez bien qu'il s'agit d'armes défensives. Le casque, le bouclier, etc. Certains diraient, oui, mais il y a l'épée quand même. Mais il y a quand même l'épée. Et l'épée, pardonne-moi, ça ne sert pas forcément à nous défendre, simplement. Oui, mais l'épée ici est la parole de Dieu. Et si nous regardons comment Jésus utilise la parole de Dieu, elle est aussi défensive. Troisième clé, la prière. Remarquez que le Christ, avant de vivre l'épreuve, a jeûné et prié pendant 40 jours et 40 nuits. Et après, il a eu faim. On a envie de dire, mais Jésus, c'est normal si tu jeûnes par 40 jours et 40 nuits que tu aies faim. Mais qu'a-t-il fait pendant ce temps-là, si ce n'est passer du temps dans l'intimité avec son Père, à prier? Et cette réalité du combat spirituel que nous évoquons là nous pose une question de façon intense. Parce qu'il ne s'agit pas ici de belles réunions de prière. Oh, on se retrouve à 21h, 20h30 pour prier ensemble. Ça nous lance un profond défi. Si nous avons conscience que nous sommes dans un combat spirituel, le Seigneur nous invite à nous dire, mais qui est prêt à se défendre en priant? Qui est prêt à se lever et à dire, moi, je veux passer du temps à prier en église pour nous défendre les uns les autres? Qui est prêt à le faire? Qui a soif de cette prière? Vous savez qu'une bûche enflammée isolée va tendance à s'éteindre. Et je pense que pour la prière, c'est exactement la même chose. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nous n'avons plus de réunion prière mensuelle à l'Église. Est-ce une défaite dans notre combat? Je ne crois pas, nécessairement. Cela étant dit, ça nous pose une question. Alors, on aura peut-être, on va dire, oui, mais moi, j'aime pas trop la forme de... J'aime pas trop ça, comment vous faites, là? C'est rasoir, vous lisez des textes. Mais est-ce que j'ai exprimé ça? Est-ce que j'ai participé à nourrir la vie de foi et de la prière de mes frères et sœurs? Est-ce que j'ai envie de vivre ça, cette vie d'intimité avec Dieu, personnelle, mais aussi communautaire? Est-ce que j'ai envie de me lever et me dire, moi, je veux prier? Ça nous pose une question. Parce que les flèches enflammées du diable sont là, son arc est tendu. Alors, il faut avoir un juste équilibre. Mais, il ne faut pas prendre les choses, me semble-t-il, à la légère. Quatrième clé, c'est bien sûr la parole de Dieu. Parole méditée par le Christ, qui a médité le livre du Deutéronome, ce temps d'épreuve d'Israël dans le désert pendant 40 ans. Connaître la parole, nous nourrir de la Bible. Ça, c'est des choses qu'on dit et on répète. Je me souviens que quand j'étais plus jeune, des fois, les prédications me barbaient. Parce que les pistes d'application, c'était toujours la même chose. Prie et lis la Bible. Mais combien de fois, combien avons-nous besoin de nous rappeler que la parole de Dieu est la source qui nous permet de mieux connaître Dieu, mieux connaître notre réalité et éviter de nous égarer aussi. Cinquième clé, c'est le jeûne. Image de cette fermeté dans la foi. Parce que c'est quand même étonnant ce que fait Jésus. Il s'arrête de manger et de boire, ou du moins de manger, pendant 40 jours et 40 nuits, et après le texte nous dit qu'il a eu faim, et la première tentation, ça va être la faim. C'est quand même étrange. Alors certes, la tentation ne s'arrête pas là. Mais pourquoi Jésus a-t-il jeûné? Peut-être que vous connaissez cette histoire d'une grenouille, d'un crapaud. C'est un crapaud qui avait fait des super bons biscuits, des cookies, avec des ingrédients succulents. Le crapaud s'appelle Toad. Alors, il sent ses bons biscuits, commence à les goûter, il dit « super, je vais aller en proposer à ma voisine la grenouille, Frog. » Alors, il fait goûter un gâteau à Frog, sa grenouille, qui lui dit « Ouh, ce sont les meilleurs biscuits que j'ai jamais mangés. » Frog et Toad alors commencent à manger des biscuits sans s'arrêter. Et la grenouille, la bouche pleine, commence à dire « Je crois que nous devrions arrêter de manger, on va tomber malade. » Alors l'autre de lui répondre « bien sûr, prenons-en un dernier, puis après on arrête. On arrête. Ok, ok. Allez, un tout dernier, et puis après on arrête. » La grenouille et le crapaud ont commencé à manger un dernier biscuit. « Allez, nous devons arrêter de manger. »« Oui, » dit la grenouille, « mais nous avons besoin de volonté pour ça. »« Et qu'est-ce que c'est que la volonté ?» demanda l'autre. « La volonté, c'est s'efforcer de faire, de ne pas faire quelque chose que tu veux vraiment faire. »« Tu veux dire comme si tu essayais de manger tous les biscuits et d'arrêter de manger les biscuits ?»« Oui, oui, c'est un peu ça. »« Allez, maintenant, » faisons preuve de volonté, arrêtons de manger des biscuits. Ouais, d'accord. Alors, il commence à mettre les biscuits dans une boîte. La grenouille dit, mais attends, tu mets les biscuits dans la boîte, mais on peut ouvrir encore la boîte. C'est vrai. Alors, la grenouille a décidé de prendre les choses en main. Prend une ficelle, entoure la boîte et fait un nœud. Le crapaud lui dit, mais hey, on peut toujours prendre la boîte, défaire le nœud et manger les biscuits. Ok, c'est vrai, tu as raison. Alors, la grenouille prend le paquet, fait le nœud, monte sur une échelle, pose le paquet sur une haut d'une étagère. Et le crapaud lui dit, mais attends, on peut encore monter à l'échelle, prendre le paquet, défaire le nœud, et puis manger tranquillement les biscuits. T'as raison. J'ai une idée. Maintenant, nous ne mangeons plus de biscuits. Et donc la grenouille ouvre la boîte, la met dehors et appelle les oiseaux. Les oiseaux viennent, mangent tous les biscuits. Maintenant, on n'a plus de biscuits à manger, dit la grenouille. C'est vrai. Mais par contre, nous avons beaucoup de volonté. Alors le crapaud répond, ta volonté, tu peux la garder. Moi, je rentre à la maison pour me cuire un gâteau. La volonté, la fermeté dans la foi, dont le jeûne est un exemple. Alors c'est vrai, le jeûne est souvent associé à la lamentation, à la repentance, mais il est aussi une occasion de se dépouiller. Dépouiller littéralement de ses forces. Privez-vous de nourriture pendant un certain temps et vous allez voir que les caractères se... n'est-ce pas ? Il n'y a qu'à voir certaines émissions à la télé. Se dépouiller de nos forces pour puiser en Dieu les forces de tenir ferme. Voilà ce que c'est que le jeûne. Remarquez, chers amis, dans tout ce que je viens de dire, dans toutes ces clés, il ne s'agit pas que d'être passif, il s'agit aussi d'être actif. Et je me pose la question, quelle plus grande efficacité pour chasser les ténèbres qu'une église qui apporte la lumière de l'Évangile. Parce que je tiens à vous rassurer, chers amis, si en tant qu'Église, nous nous levons, nous prions, nous jeûnons, nous témoignons, si nous portons assistance aux plus démunis, si nous marchons fidèlement avec Dieu, je vous rassure, nous ne tarderons pas à être dans le collimateur de l'ennemi. L'ennemi de nos âmes. Et pour ma part, j'en ai eu l'expérience l'année passée, avec des luttes intérieures terribles, jusqu'au jour où le Seigneur m'a montré que simplement l'ennemi voulait me chasser d'ici, chasser de Melun. Et le jour où j'ai compris ça, que c'était une stratégie de l'ennemi, oh, ça n'a pas changé les épreuves ou les luttes, mais ça a changé mon regard sur ce que je vivais. Alors, chers amis, nous sommes rentrés dans cette période de carême qui nous prépare à Pâques. Une période qui, en principe, par ses privations, on se prive des fois du chocolat ou de viande, que sais-je, nous prépare à ce temps fort qu'est la mort et la résurrection du Christ. Période qui est aussi l'illustration de ce que nous vivons. Nous ne vivons pas encore une période totale de victoire, mais nous vivons dans une certaine frustration, dans nos luttes. Mais en attendant, le Seigneur nous invite à nous lever, à nous défendre, à prier, à jeûner, à lui faire confiance pour tenir debout, en n'oubliant jamais, 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 chers amis, que rien de tout ce que nous vivons, de tout ce que nous avons à subir, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, un amour sans faille, inconditionnel et infini. Que le Seigneur vous bénisse.